Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Alors aujourd'hui, c'est cinéma, trois films, trois chroniqueurs, Marie-Noëlle Tranchant, Bernard Milioni et vous, Dominique Borne. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Christophe Maury.
Alors, vous nous emmenez voir La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, La Ferme des Bertrands de Gilles Perret et Le Bonheur est pour demain de Brigitte Si. Mais auparavant, j'aimerais insister sur Le Limier, cet extraordinaire film de Mankiewicz, avec Laurence Olivier et Michael Caine, on va dire notamment. Ça se repasse au Champeau, c'est ça?
Absolument. C'est d'après la pièce d'Anthony Schaffer qui adapte sa propre pièce sur son scénario diabolique.
Incroyable.
Vous avez un amant qui va voir le mari de la femme.
Pour récupérer le manteau de fourrure.
Oui, ça c'est le prétexte de départ. Et s'ensuit un jeu du chat et de la souris absolument diabolique.
À celui qui humiliera le plus l'autre.
Le précédent film de Mankiewicz, Joseph L. Mankiewicz, s'appelait Le Reptile, avec Kirk Douglas qui faisait une fripouille. Et là, on a vraiment deux reptiles lancés l'un contre l'autre. C'est l'anti-Molière. Molière, on dit souvent qu'il en faut peu pour que la comédie vire au drame. Et là, il en faut peu pour que le drame vire à la comédie, mais comédie grinçante.
Ah oui.
On a unité de lieu, unité de temps, unité d'action. En fait, c'est bien une tragédie, mais la tragédie des amours trahis. Et comme ça a beaucoup de charme et qu'on est comblé, bah c'est vraiment le jeu du charme et de l'assouvi.
Voilà, et alors je l'ai vu dans les bacs à la FNAC, il est maintenant en Blu-ray, il est en DVD
depuis peu.
Et il sort sur grand écran au Champeau, c'est vraiment, c'est vraiment un événement.
Ça fait de pas manquer, c'est le dernier film de Mankiewicz, et sur le jeu de pouvoir aussi, oui.
Oui.
C'est sur le
et puis sur la virilité, surtout ça, c'est formidable.
Oui, oui.
C'est l'un des seuls films de l'histoire du cinéma où il y a un amant et un diamant. Et je voulais aussi dire que ça a été un échec retentissant en France quand le film est sorti.
Incroyable.
Ça a fait moins de 500 000 entrées sur la France en 72, ce qui n'était vraiment pas grand-chose.
Et c'est un chef-d'œuvre.
Ah oui, absolu.
Nous allons passer maintenant à un film aussi ensoleillé que glaçant, c'est La Zone d'intérêt. Rudolf et Hedwig Huss vivent une vie de famille dans la maison de fonction de cet officier allemand directeur du camp d'Auschwitz. Alors on assiste à une vie de famille charmante et joyeuse à l'ombre des murs du camp, quand seuls les cris donnent signe de vie ou de mort. On écoute la bande-annonce.
Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause Hörs verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Plus qu'un film sur l'époque, moi j'ai vu un peu la métaphore de toutes ces vies heureuses, alors qu'à moins de 1000 km, des gamins de 20 ans se foutent sur la gueule à coups de missiles, d'obus et de mitraille. Mais enfin, on est quand même là.
On est là et on ne voit pas.
Et on ne voit pas, mais
c'est pire. C'est pire, on entend et on sait ce qui se passe, puisqu'ils sont à côté d'Auschwitz, du camp d'Auschwitz. Hein. On est aux portes de l'horreur, dans les coulisses confortables des responsables nazis. Eux, ils mènent une vie bourgeoise, il y a une piscine, il y a des enfants, il y a une bonne qu'on humilie parce qu'elle est polonaise, je crois. Voilà, ils sont installés dans leur confort bourgeois, pendant qu'à côté, on meurt et on souffre. Et alors c'est une parabole aussi, hein, c'est une situation de l'aveuglement, l'égoïsme, quelque chose qui peut ressembler, mais au fond... C'est pas très étonnant. Ce qui foque, c'est le parallèle. C'est parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Mais pendant qu'on sacrifiait des gens à Auschwitz, il y avait beaucoup de gens qui vivaient aussi joyeusement et bourgeoisement.
Oui,
simplement,
sûr.
Ils sont à côté.
Ben oui.
Alors, bien sûr, c'est un peu gênant.
Ce qu'on avait vu dans La mort et mon métier de Robert Merle.
Ça, il fait penser.
Voilà, donc le film est d'autant plus efficace à cause de ça, au fond. C'est une dénonciation donc de l'horreur du camp d'extermination, hein, qui n'est au fond pour eux qu'un élément d'une décision politique et le résultat administratif d'une extermination décidée froidement, politiquement, froidement, administrativement. Voilà, c'est à voir pour comprendre l'égoïsme et l'inconscience et pour comprendre l'horreur d'une extermination aussi globale, quoi. Alors, la dénonciation est assez efficace. La vie d'un côté, la mort de l'autre. Et puis, au milieu d'inconscience, finalement, c'est ça.
Et l'enfance.
Et on a en plus la personne qui fait le ménage dans le mémorial d'Auschwitz, avec les faussures qui sont derrière la vitrine. C'est un hommage, au fond, à tous les juifs sacrifiés. Mais c'est assez efficace.
Exterminé,
oui.
Oui. Oui, l'inconscience et la bonne conscience. Oui. Parce qu'il y a une épaisse couche de bonne conscience qui est terrible. Et que la mise en scène dit, martèle même. Parce que c'est impressionnant et implacable, ce film. La mise en scène est tirée au cordeau. On peut lui reprocher d'ailleurs un excès de maniérisme et un côté répétitif dans l'agencement des plans très géométriques, des situations toujours très raides, très illustratives, avec des rapports très gourmets, même entre les intimes, et qui sonnent assez faux. C'est volontaire, mais ça finit par tourner un peu au procédé. La trouvaille la plus puissante de mise en scène, c'est évidemment cette distorsion entre les images léchées de la famille nazie et la bande-son qui fait exister hors champ l'horreur qui a lieu derrière les barbelés et le mirador qu'on voit dans la perspective des allées du jardin fleuri, comme ça, tout à coup. Et puis une musique absolument sépulcrale qui est à vous rendre malade. Vraiment, ça c'est assez fort. Puis il y a des scènes, quelques scènes puissantes, comme le partage des vêtements et des objets des Juifs dépouillés avant d'être exterminés, qui sont, dont s'empare la maîtresse de maison, distribue à ses domestiques.
Sans scrupule.
Mais aucun état d'âme, oui, aucun. Et puis il y a une autre scène très forte qui est la réunion des chefs de camp à Berlin, qui est prise d'abord en surplomb. C'est une scène absolument glaçante qui rappelle, oui, la conférence dont nous avions parlé ici, avec ses comptes rendus bureaucratiques de l'horreur. Mais très détaillé, très bureaucratique. Et puis la fin, la scène de fin est terrible et très forte aussi, puisqu'on est dans Auschwitz aujourd'hui, devenu musée, et on commence par voir les équipes de nettoyage, c'est-à-dire qui font du travail quotidien à côté de l'horreur, là aussi, du souvenir de l'horreur, mais c'est finalement un écho quand même assez terrible de ce qui s'est passé vraiment et qu'on a vu en grand. Là, c'est comme un écho miniature, et ça, c'est assez bouleversant. Ça fait qu'on sort de ce film quand même très, très, très bouleversé.
Fatigué. Malheureusement, j'aurais bien voulu que l'intention est très bonne, la forme est presque brillante, mais la forme mange le fond.
Oui.
Et c'est bien dommage.
Oui.
Parce qu'en effet, vous avez une réalisation dont la sophistication, alors Marie-Noël a dit des images très léchées, et oui, c'est plan géométrique, absolument, cette sophistication n'a d'égal que la distinction, c'est très élégant, et donc ça emporte l'adhésion, ça excelle à montrer cette abjection tranquille. Et l'abjection tranquille, elle est montrée avec une unité fertile du début à la fin et une tonalité à la froideur subtile. On n'appuie jamais rien, mais c'est aussi le problème, c'est que tout a tendance à passer, sauf la bande-son. Le contraste entre les horreurs indicibles que l'on entend et le bonheur impassible, séparé par un mur indestructible, parce qu'en fait c'est un mur mitoyen entre le jardin et le camp d'Auschwitz, met en évidence l'ideur d'un aveuglement inflexible. Et vous avez prononcé le mot, Marie-Noël, et je suis d'accord avec vous, on est dans une indifférence, un aveuglement absolu et complètement inflexible. Cette séquence déogradée, c'est peut-être ce qui tire son épingle du jeu. Christophe, vous avez parlé de la mort et mon métier, ça fait aussi penser dans cette manière de traiter indirectement l'événement à une nouvelle de Roald Dahl, où vous avez un couple qui a perdu plusieurs enfants et le dernier est très très faible. Et on est du côté de ses parents jusqu'à la fin, on apprend que cet enfant faible, c'est Adolf Hitler et qu'il va survivre. Et cette manière de traiter de façon totalement implicite et indirecte l'horreur est convaincante. Mais maintenant, le couple mis à l'honneur est absolument odieux, ainsi que la belle-mère, qui a des propos alors antisémites, sans vraiment, sans vergogne. Vous avez une curieuse rupture, moi, la scène à Auschwitz à la fin. Très bien, sauf qu'ils font l'erreur de revenir à l'époque du camp d'Auschwitz. Et cette toute dernière scène, je trouvais ratée. Ils auraient dû finir sur le nettoyage des lieux. Et là, cette espèce de valse-hésitation, je trouve, n'est pas convaincante. On attend en plus une montée en puissance pendant tout le film qui n'arrive pas. Et puis ce traitement dramatique est assez distant et erratique, se fait un peu au mépris de toute dynamique. Les dialogues sont poussifs. Les épisodes de domestique, je suis d'accord avec Marie-Noël, finissent par être très répétitifs. Et ce pari de départ, cette gageure, finit par se retourner contre eux. La gageure s'est traitée avec une tonalité détachée et machinale, les événements, mais ça se retourne contre le projet initial parce que ça le met à l'écart des émotions rares ou banales et ça le condamne à un traitement glacial. Donc comment rentrer après dans ce film ? Je dirais que pour conclure, en ce jardin outrancièrement lisse, on peut se demander, mais quand reviendra-t-il le temps que des cerises ? Mais on aura surtout hâte d'instruire le procès de murs imberbes.
Ah, c'est pas mal. Bon, voilà, nous passons tout de suite à la ferme des Bertrand de Gilles Perret. C'est une ferme qui a été filmée pendant 50 ans, depuis 1972 en Haute-Savoie. Il faut dire que la ferme est voisine de la maison du réalisateur Gilles Perret et qu'en 72, il a commencé à filmer. Et puis, on voit l'évolution du métier, l'évolution des agriculteurs. On arrive à 2, 3, 4 générations. Et en pleine crise actuelle et avant le salon de l'agriculture, je pense que le film est à voir. On écoute la bande-son.
On est dans un petit village de Savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici.
Et votre vie, c'est le travail tout le temps ?
Ah ben oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie.
C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui vont prendre la relève.
On va te laisser de digérer cette reprise parce que ça te manque les morceaux.
Un peu on y fait aussi parce que ça nous plaît.
C'est
la première des choses, c'est ça. Hein.
Moi ça fait plus que je suis gamin que je ramasse. C'est mon père qui m'a appris assis à côté, tu vois.
On prend toujours des conseils à gauche à droite, on discute beaucoup avec les autres agriculteurs qu'on voit, et avec André aussi.
C'est des tout bons. Bon, il y a quelques détails que j'aurais aimé qu'ils y fassent un peu mieux, mais enfin, tant pis. On peut pas tout y avoir.
Ouais, la ferme, on l'a modernisée, mais le bâtiment, il est pas plus gros que quand ils étaient là. Hein.
Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique. Ou abandonner la profession, vous sauvez.
Il y a le robot partout maintenant, dans les usines et tout, ce qui remplace des hommes, pourquoi pas qu'ils nous remplaceraient pour frères. Hein.
Ça donnera peut-être plus de goût aux jeunes.
Dans la vie, il n'y a pas que la satisfaction de l'argent. Il y a une certaine satisfaction de laisser une nature en état, une belle nature, une nature propre.
C'est vrai qu'on est là pour un petit moment. Après, ça sera des autres générations. On n'est pas là pour y abîmer.
On ne travaille pas pour s'enrichir, on travaille pour s'en sortir. Mmh. Et il y a une dame qui dit, mais aussi parce que ça nous plaît. C'est un film que moi j'ai trouvé tout à fait intéressant.
En parlant de ce film, je parlerai d'un autre, parce que voilà, ça peut arriver de temps en temps. Je pense au travail qu'avait fait Georges Vouquier, qui est un des précurseurs du cinéma naturaliste. En 1946, il avait filmé une famille de paysans. Et en leur faisant jouer leur propre rôle. Alors, la démarche était un peu différente, mais elle était plutôt dans le style de ce qu'a fait Piala par la suite. Piala était très admiratif, d'ailleurs, de Georges Vouquier. Et en 83, il a fait Big Phare. Il a repris les mêmes, mais avec la distance, justement, avec le temps. Donc, moi, j'ai pas pu m'empêcher de voir ce film en pensant à ça, et en pensant aussi à un autre film, vous m'excuserez, Paul dans sa vie, qui était très réussi en 2004, qui faisait le portrait d'un paysan qui allait prendre sa retraite. Et qui disait « Je suis dans ma vie ». Ça avait fait le titre du film, qui était vraiment remarquable aussi et très émouvant. Alors là, on a trois générations, trois époques filmées un petit peu dans le désordre, parce que moi, je pensais qu'on aurait quelque chose d'un petit peu plus organisé.
Chronologique ?
Oui, beaucoup plus chronologique. Là, on s'y perd un peu.
On le voit par les couleurs, hein, parce qu'il y a des couleurs qui sont fanées, il y a des couleurs qui sont plus
fortes. Oui, oui, enfin... il y a un peu de noir et blanc, mais il n'y en a pas beaucoup, etc. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est la mission qu'ils se sont donnée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi ce travail, c'est ce travail qui les a choisis. Oui. Et on le comprend tous, ils le font parfois un peu à contre-cœur, parce qu'il faut continuer, parce qu'il faut laisser quelque chose, on ne peut pas arrêter les fausses, voilà, on passe la main à la prochaine génération. Et c'est ça qui se détache du film. C'est une mission, c'est une passion, c'est pas toujours une passion, c'est une obligation, mais c'est une mission. Et c'est ce qui ressort du film, je crois. Ce qui est touchant, en effet, surtout que c'est tombé en même temps que la grève des agriculteurs, donc on se sent un petit peu... Et l'impératif, ben oui, c'est l'élevage, c'est la ferme, c'est ce qui dirige tout. C'est un travail dur, répétitif, qui est usant physiquement, ça on s'en rend compte aussi. Donc on pénètre même le monde paysan, mais d'une façon, moi j'ai trouvé un petit peu superficiel malgré tout. Ça c'est mon opinion. Hein. Voilà. Il y a des scènes assez drôles, comme l'agneau dans le café, ça, c'est assez, la scène de Niol dans le café, et puis l'arrivée de la mécanisation qui va tout changer. Donc tout ça on le voit, et oui, pour un citadin comme moi, c'est tout, mais c'est, j'ai rien appris, mais j'ai une confirmation de ce que j'avais vu avant. Voilà.
Paris-Noël.
Ah, je trouve pas que ce soit superficiel, je trouve qu'on entre bien dans l'épaisseur de ces générations. On connaît, enfin moi personnellement, je connais de ces dynasties paysannes qui viennent de loin et qui vont encore loin, puisque on voit bien l'évolution à travers les générations, simplement du geste auguste du semeur, ou bien dans des fenaisons,
la
traite, bien sûr. Et puis, les plus jeunes générations vous parlent de phytosanitaires, ils sont très au fait des...
C'est des ingénieurs, c'est des scientifiques.
Oui, mais ils sont aussi paysans. Ils ont cet enracinement-là, plus le sens... du progrès technique, et ils ne sont pas du tout opposés, et les vieux, à cause d'eux, ne sont pas non plus opposés au progrès technique. Ils voient simplement la transformation et, par exemple, ce souci du fini. Au moment des fenaisons, le vieux paysan, il fait les bords à la main. Maintenant, avec les machines, on ne fait plus ça. Ce sont des détails comme ça qui font passer d'une génération à l'autre. Alors, c'est très beau. En plus, moi, ce que j'ai aimé aussi dans ce... Donc, ça tresse trois époques. Il y a en effet un documentaire en noir et blanc de 72 qui n'est pas de Gilles Perret. Et puis, deux autres films qui sont de lui. Il est là, il habite là. Donc, ce voisinage crée une familiarité et une chaleur que j'ai trouvé très attachante.
Et c'est le côté un peu brouillon que vous évoquiez. On a un rapport de voisinage.
Mais oui, on est chez eux, on va et vient.
Et dans les autres films aussi, les films que j'ai cités.
Oui, mais là, on parle de celui-là. Et il est très bien, comme ça. mais c'est fait, c'est fait.
Non, mais ça, je veux dire, ça
maintenant, on parle de celui-là. L'image est très belle. Une photographie très fine, très ciselée, qui ressemble parfois à des gravures. Ils ont d'ailleurs ces vieux, ces trois frères, les plus anciens. Les anciens, on ne dit pas les vieux, on dit les anciens, ils le disent. Ils ont des profils de médailles, ils sont beaux. Hélène, la bergère, la belle fille, elle est magnifique. Elle a un très beau visage aussi, très lumineux. Ils ont une allure... Et puis qu'elle parlait. On a entendu ça chez les agriculteurs, là, dans ce mouvement récent. Comme ils parlent bien. Moi, ça fait plaisir à entendre, hein, un Français pareil, qui a une tenue, une précision. Ils savent de quoi ils parlent. Ils disent les mots justes. Ils savent construire des phrases élégantes. Et ils sont élégants eux-mêmes. Alors, on entre dans leur histoire, en effet, par bribes. Par exemple, les frères qui ont fait la guerre d'Algérie, on a des allusions au temps de leur service militaire. On parle du célibat, ceux qui ont des agriculteurs, cette difficulté. Il y en a un qui dit clairement, j'aurais voulu faire comme les autres, j'aurais aimé fonder une famille, mais c'était pas, fallait travailler et travailler ensemble. Et ils ont pu travailler ensemble parce qu'ils avaient confiance en chacun d'eux et que tout était fondé, cette entreprise familiale, sur l'honnêteté, ils le disent. Mmh. L'honnêteté des rapports. On n'est jamais dans la cupidité, dans l'avidité. On fait ce qu'il y a à faire. Ils ont une grandeur, voilà, que je trouve assez admirable.
Parfait. Nous allons passer maintenant Le bonheur est pour demain de Brigitte Sy avec Laetitia Casta et Béatrice Dalle, dont c'est l'histoire de Sophie. Elle est en couple, elle a un enfant et puis elle s'ennuie. Alors elle va rencontrer Claude qui est drôle, séduisant, intelligent, sympathique. Elle est sous le charme et puis elle est amoureuse. Mais Claude est un escroc, est arrêté, condamné à une lourde peine de prison. Excite l'amant ? Eh ben non, parce que l'amour est plus fort que tout. Et quand il s'agit bien d'amour.
Tu voulais faire quoi quand t'étais petite, toi ?
Je voulais être aimée d'un homme que j'aime, avoir des enfants, m'occuper d'eux.
C'est réussi.
T'étais avec qui ?
Avec moi-même.
Fais gaffe, Sophie.
C'est la pierre de quoi ?
Les marins, les escrocs, les trafiquants.
Ça me promet.
Conseille de pas trop parler avec lui.
Bah tu peux te les garder tes conseils. C'est quoi ton parfum ?
T'aimes pas ?
Si, j'aime beaucoup. Je connais même pas, qu'est-ce que t'imagines ?
Qu'est-ce qui se passe ? Je te parle alors t'arrêtes et tu me regardes, d'accord ?
Je reviendrai. Je reviens toujours.
Il vous en fait baver, Claude ?
Non, c'est mes fils qui en bavent avec moi. Et toi tu veux quoi ?
Je veux le revoir.
Tête, toi. Fais pas ce connerie.
T'irais jusqu'où par amour, toi ?
Tu irais jusqu'où par amour, toi ? C'est la question. Dominique.
Oui, il faut dire que Brigitte Sy parle de ce qu'elle connaît parce qu'elle a organisé des dizaines de spectacles dans les prisons et elle avait réadapté l'Astragale tirée d'Albertine Sarrazin.
Avec moi,
voilà, alors qu'elle avait déjà été adaptée par Guy Casaril en 68, elle fait en 2015. Donc, ce qui est un peu la même histoire. Moi, en voyant ça, j'ai pensé à l'Astragale, d'ailleurs. On comprend d'emblée, en regardant bien, que le bonheur n'est pas pour aujourd'hui, mais il n'est peut-être pas pour demain non plus. En tout cas, il n'est pas pour aujourd'hui, c'est certain, parce qu'on passe des bars glauques à la prison, des prisons à un amour impossible, à la violence. C'est un univers assez glauque, assez beau, où Laetitia Casta arrive à presque à dominer la situation en existant malgré tout, car c'est ça au fond son rôle, c'est d'exister malgré tout, malgré la prostitution, malgré le malheur, malgré son petit garçon qu'on lui retire. Or ça c'est assez beau, c'est un film noir, c'est une fable sociale, qui va dans les zones grises du destin, des zones dont on ne sort pas, on le sent comme ça. Béatrice Dalle est vraiment abonnée au rôle de prostituée maintenant, c'est une nouvelle vocation, et ça lui va pas mal d'ailleurs, hein. Mais donc c'est un univers très noir, très lourd, très pesant. Et le seul espoir, c'est les enfants. Et d'ailleurs, ça finit sur les enfants, puisqu'elle va être enceinte de cet homme dont elle est tombée amoureuse. Elle avait déjà un petit garçon. Et la fin finit sur ses enfants. Il y a l'espoir. On espère qu'ils ne vont pas connaître ça. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire du film.
Marie-Noëlle.
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Et je m'y attendais pas. Je ne savais pas d'ailleurs à quoi m'attendre. Je n'avais pas d'idées sur la question. Et j'ai trouvé que c'était un beau mélo amoureux, populaire, qui nous emmène tout de suite du côté de Macorlan, de Piaf, de Casque d'Or, d'Arletty, au pays de la gouaille et de la misère, modernisé intelligemment et avec, je trouve, beaucoup de goût, des couleurs très flashy, des scènes très chaloupées, un sens du rythme et du tempo formidable, des personnages épatants. Laetitia Casta est sensationnelle, oui, des dialogues excellents.
Ouais. Moi, je pense, madame, malheureusement, tout le contraire de ce que vient de dire Marie-Noëlle. Je trouve pas ça mauvais, je trouve ça très mauvais. Je trouve ça d'une laideur esthétique rare. Les dialogues sont quand même ronronnants au possible. Il n'y a pas d'intrigue. L'Astragale était quand même vraiment bien supérieure. Il y a une petite tension à la fin. C'est les personnages, plutôt l'interprétation qui prend le haut du pavé. Mais Béatrice Dalle n'a pas l'âge d'être la mère de Damien Bonnard. Elle aurait eu à 14 ans. C'est quand même un peu juste. L'intrigue, je trouve, n'a n'a pas de consistance. La réalisation est quand même très, très apathique. Alors, c'est très explicite sur le milieu carcéral, ses visites. Et puis, la victime est traitée comme quantité négligeable, hein, quand même. Je dirais pour finir que L'Avenir fait ici l'acquisition d'une intrigue aux allures de soupe indigeste. On ne sait pas ce que c'est ce demain, mais on vend son goulash à demain.
Merci à tous les trois, Marie-Noëlle Tranchant, Bernard Médioni et vous, Dominique Borne. Je rappelle que nous avons vu pour vous La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, La Ferme des Bertrands de Gilles Perret et Le Bonheur est pour demain de Brigitte Si. Et puis, naturellement, au Champeau et dans les bacs en DVD Blu-ray, Le Limier de Mankiewicz. Formidable film, un chef-d'œuvre. Merci Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, je recevrai, c'est jeudi, Cécilia Duterre, une voix que vous connaissez bien désormais, pour son livre « Aimer d'un cœur de femme » en dialogue avec Marie et Marie-Madeleine aux éditions du Cerf. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.